Radio Open FM. L'Europe et nous, info, histoire et actu. Plongez au cœur de la culture européenne avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis à nouveau accompagnée de Marie-Lou et de Christian de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en ce début du mois d'avril et l'arrivée du printemps, nous explorons les fêtes printanières à travers l'Europe. Déjà, ces dernières se retrouvent-elles dans tous les pays de l'UE pour célébrer l'arrivée du printemps ?
Alors, très bonne question, mais comment parler des fêtes européennes sans commencer par les plus célèbres qui arrivent juste avant l'arrivée du printemps ? Je parle bien évidemment de la Saint-Patrick pour l'Irlande, mais aussi des Fallas à Valence pour l'Espagne. Commençons par la première qui se déroule chaque année le 17 mars.
Alors oui, la Saint-Patrick ou la Feil Padraic en gaélique est sans doute l'une des fêtes européennes les plus connues et bien au-delà des frontières irlandaises. Ce qui est moins connu en revanche, c'est qu'elle ne possède aucun statut officiel de fête nationale en Irlande. Et pourtant, elle est célébrée avec une ferveur assez impressionnante depuis des siècles déjà. Alors cette fête, avant d'être associée à la bière et au trèfle, telle qu'on le connaît actuellement, est d'abord une fête chrétienne, en l'honneur donc, du Saint-Patrick, l'évangélisateur de l'Irlande au 5e siècle. Son histoire, elle commence de manière assez rocambolesque. Alors, au 4e siècle, il est élevé par des pirates, puis vendu comme esclave à un druide irlandais. Il va finir par s'échapper, mais revient en Irlande, donc sur ordre du pape Célestin Ier en l'an 411, afin de convertir donc, les populations celtes au christianisme. Il va mourir donc, le 17 mars 461, date à laquelle on commémore justement donc, chaque année sa mémoire. Et aujourd'hui, la Saint-Patrick est une immense fête populaire. On se rassemble dans des pubs, on écoute de la musique traditionnelle, on s'habille de vert, qui est la couleur symbolique de l'île, et on affiche aussi fièrement donc le trèfle, qui est un autre emblème de l'Irlande. Et d'ailleurs, donc selon la légende, Saint-Patrick aurait utilisé un trèfle afin d'expliquer le concept justement de la Trinité chrétienne. Et donc, pour en revenir aux fêtes, à Dublin, donc, tout converge vers le célèbre quartier du Temple Bar, où les habitants, voilà, ils chantent, ils dansent et ils boivent. Et depuis les années 1990, il y a même un festival national qui a été lancé afin de promouvoir la culture irlandaise avec des concerts, des spectacles de rue, des défilés et une programmation qui s'étale sur plusieurs jours.
Et dans le même genre, festif et fédérateur, mais peut-être un peu moins connu, on peut partir à la découverte des Fallas, célébrées à Valence en Espagne, qui réunit chaque année 1 million de visiteurs. Mais d'où viennent ces fêtes et en quoi consistent-elles ? Ces fêtes valenciennes ont été créées il y a plus de 3 siècles. À l'origine, elles symbolisaient la célébration de San José, Saint-José, le saint patron des Valenciens, où il était coutume de brûler des objets ou des structures en bois, d'où le terme Fallas, qui signifie torche en latin. Au fil des années, plusieurs éléments se sont ajoutés pour former les fêtes telles qu'elles sont connues internationalement aujourd'hui. Les bûchers d'autrefois se sont transformés en statues, qu'on appelle ninots, et qui sont incinérés le jour de la créma, ce qui annonce la fin des fêtes, donc c'est le dernier jour. Et un autre élément qui marque ces festivités valenciennes, c'est la pyrotechnie. En effet, elles sont rythmées par le son des pétards utilisés par les festeros, mais également lors des événements publics par des professionnels. Plusieurs jours du mois de mars, on peut assister à des mascletas, c'est une série de pétards qui explosent simultanément sur certaines places de la ville, dont la place de la mairie, c'est un symbole phare des Fallas, et il y a aussi de nombreux feux d'artifice qui subliment le spectacle. Chaque année, les meilleurs Fallas reçoivent des prix dans différentes catégories, la Falla infantile pour les constructions élaborées par les enfants, et la Falla mayor pour les plus majestueuses réalisées par des groupes de quartier. Et on a les Falleros et les Falleras, qui sont très actifs toute l'année pour préparer les statues et collecter l'argent nécessaire. Mais la plus grande partie de leurs actions se déroule en février-mars, où ils vont notamment procéder à la planta, c'est-à-dire mettre en place les statues dont on a parlé tout à l'heure, les ninots, et les décors en lien avec leur thème. Et donc, du 15 au 19 mars, les membres de chaque commission se réunissent pour célébrer et défiler dans les rues, souvent en tenue traditionnelle, et en étant accompagnés de musique et de pétards, deux éléments qui sont caractéristiques de ces fêtes. C'est ainsi que la région de Valence célèbre les derniers jours qui précèdent le printemps, et ce qui permet aussi de l'accueillir comme il se doit. Ce qui nous rappelle également l'esprit festif espagnol que l'on connaît, et j'ai envie de dire olé.
Et le printemps, donc pour plusieurs États membres, c'est synonyme de fête nationale ?
Exactement, et c'est le cas notamment des Pays-Bas, où la fête nationale, donc appelée le jour du roi, alors excusez mon néerlandais, Koningsdag, est célébrée chaque année le 27 avril. Mais cette date, elle n'a pas toujours été la même. Alors pendant longtemps, on fêtait donc la monarchie néerlandaise le 30 avril, donc en hommage à la reine Juliana, qui est née ce jour-là, et donc qui est aussi mère de Béatrix, qui sera la souveraine suivante. Et donc lorsque sa fille, donc Béatrix, accède au trône en 1980, elle choisit justement de conserver cette date symbolique, bien que son propre anniversaire tombe en plein hiver, donc le 31 janvier. Et comme on le devine, c'est pas forcément l'idéal pour des festivités en extérieur, dans un pays au climat assez frisqué. Puis en 2013, après l'abdication de Béatrix, donc le roi William Alexander il va monter sur le trône. Et l'année suivante, donc en 2014, il décide de déplacer la fête nationale au 27 avril, qui est là sa date d'anniversaire, tout en rendant bien évidemment hommage aux deux reines qui l'ont précédé. Mais alors que se passe-t-il le jour du roi ? Alors c'est une journée très festive et très colorée, placée sous le signe de la convivialité. Chaque année, donc le roi, la reine et leurs enfants visitent une ville différente des Pays-Bas, et justement donc ces villes préparent pour l'occasion un programme sur mesure avec défilés, spectacles, animations et traditions locales. Et ces dernières années, donc la famille royale a été accueillie notamment dans différentes villes comme Eindhoven, Maastricht ou Amersfoort. Et la particularité la plus marquante de ce jour, c'est la vague orange qui déferle dans tout le pays. Et les Néerlandais, en fait, ils s'habillent littéralement donc de la tête aux pieds en orange, avec des chapeaux, des perruques, des lunettes et même des drapeaux. Et c'est pas tout, parce que dans le pays, donc les rues se transforment en fait en immense marché aux puces, où chacun peut vendre des objets souvent insolites, dans une ambiance assez bon enfant. Et on y trouve aussi des concerts en plein air, on peut déguster des friandises maison et bien d'autres choses.
Mais alors pourquoi la couleur orange, alors que le drapeau néerlandais, comme on sait, est rouge, blanc, bleu ?
Alors très bonne question, cela remonte à l'histoire de la monarchie néerlandaise justement. Donc la famille royale, en fait, elle porte le nom de Maison d'Orange-Nassau. Et cette couleur, en fait, elle est depuis des siècles un symbole d'unité nationale. Alors tout part donc de Guillaume de Nassau-Dillenburg, qui est né en 1533 et qui hérite à seulement 11 ans de la principauté d'Orange, donc qui est située dans le sud de la France actuelle. Il devient alors Guillaume d'Orange, ou Willem van Orange en néerlandais, et donc en fait il va jouer un rôle central dans l'histoire du pays, en menant notamment la révolte des provinces unies contre l'Espagne au XVIe siècle. Et aujourd'hui il est considéré donc comme le père de la patrie. Et la première apparition donc de la couleur orange comme symbole national date de la prise de la ville de Dembril en 1572, donc qui est un moment en fait clé de cette révolte donc pour le pays. Et depuis, les Néerlandais portent cette couleur comme un signe de fierté, de cohésion et de loyauté tout simplement envers la monarchie. Et c'est vraiment un marqueur d'identité qui s'exprime donc de manière, comme je l'ai dit, spectaculaire chaque 27 avril.
Et partons à l'Est maintenant, en Pologne. Sa fête nationale a également lieu au printemps, le 3 mai, en mémoire de la première constitution qui fut adoptée le 3 mai 1791. Elle fut rédigée par les bourgeois et les nobles de la Grande Diète. La Grande Diète, c'est la chambre basse du Parlement polonais et sous le gouvernement du dernier roi de Pologne et le grand-duc de Lituanie Stanislas II. Ce fut la première constitution en Europe et elle traite de nombreux points essentiels afin de réformer les institutions et d'organiser la vie des Polonais. Elle reconnaît les droits aux paysans, elle maintient la monarchie héréditaire et son pouvoir exécutif, elle précise les droits politiques des représentants, elle limite l'armée, et enfin, elle institue la gestion territoriale. Dès lors, le 3 mai est donc devenu un jour férié annuel. Et depuis le recouvrement de l'indépendance, la Pologne a deux fêtes nationales. Oui, oui, vous avez bien entendu, deux. Une le 11 novembre qui commémore l'indépendance retrouvée après la Première Guerre mondiale, donc comme en France au final. Et la seconde célèbre la constitution du 3 mai qu'on vient d'expliquer. Ce qui est curieux, c'est que cette dernière n'a jamais été appliquée au final en Pologne. Toutefois, les Polonais sont fiers d'être l'un des premiers pays au monde à avoir rédigé un document enclin à mettre en pratique dans la vie politique les idées du siècle des Lumières. Dans la Pologne d'aujourd'hui, ce jour férié donne lieu à de nombreux défilés, des expositions, des concerts et des discours de personnalités publiques. Et la plupart des hommes politiques polonais importants participent à ces festivités.
Et pour terminer notre tour printanier, cap sur la Grèce avec un événement plus original et de renommée mondiale, attention, donc c'est le Festival des Jardins de Corfou qui aura lieu du 26 avril au 4 mai 2025 pour sa 8e édition déjà. Alors située dans la mer Ionienne, l'île de Corfou est célèbre pour sa végétation luxuriante et son surnom poétique, le Jardin des Dieux. Le festival, en fait, il met en lumière donc ce patrimoine naturel exceptionnel, mais aussi l'engagement des habitants et des communautés locales qui, justement, entretiennent ces espaces avec passion. Et pendant une semaine, des dizaines de jardins privés ou habituellement fermés ouvrent leurs portes au public, et c'est l'occasion de découvrir une autre facette de l'île entre tradition horticole, biodiversité et art de vivre méditerranéen.
Et c'est sur cette belle note que s'achèvent nos festivités.
Eh bien, merci à tous les deux pour ce beau panorama festif qui donne envie de voyager à travers l'Europe en cette saison. On se retrouve bientôt pour explorer l'UE à travers une autre tradition un peu renommée qui parlera aussi bien aux plus petits comme aux grands. Bonne journée à tous.
Bonne journée.
Merci. Radio Open FM.
L'Europe et nous, infos, histoire et actu. Plongez au cœur de la culture européenne avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.